pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
La fortification, c'est un piège à con. Les Romains le savaient. Lorsqu'ils ont attaqué Alésia, ils ont entouré Alésia d'une première ceinture et ensuite d'une deuxième ceinture. Personne ne rentre, personne ne sort. Quand vous aurez faim, même la ligne Maginot, elle pouvait résister 3 mois. Au bout de 3 mois, il n'y avait plus rien à manger. Donc c'est un beau piège à rat, un piège à con, moi je dis toujours. Sous ces ruines, il y a encore des hommes. Pendant les bombardements français ou allemands, des hommes sont morts dans le fort. Il y a eu des gens qui ont été ensevelis. Peut-être que dans des cagnas qui sont sous le fort, qui sont complètement bouchés, se trouvent des hommes qui ont été ensevelis sous les graves. Donc, en plus d'être un site historique, c'est aussi une nécropole. 800 hommes, 36 canons au maximum, et tout ça qui n'a jamais servi. Le pognon des Français est passé là-dedans à l'époque. Voilà. On n'a rien compris parce qu'on continue.
La guerre, toujours une bonne nouvelle pour les marchands de canons. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels, disait Anatole France. Citation qu'on vous rappelle tous les ans aux alentours du 11 novembre et de ces célébrations de la fin de la première grande boucherie mondiale. Et tous les ans, on vous cite aussi Paul Valéry et son « La guerre est le massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent, mais ne se massacrent pas ». Salut les amis, c'est JBD pour polémixelavoixoff.com et pour votre radio encore libre préféré, mais pour combien de temps? Et cette année encore, on va donner raison à Jacques Prévert et à son « Quelle connerie la guerre !» avec aujourd'hui la suite de la lamentable histoire du fort de la Malmaison dont on vous a déjà parlé, parfaite illustration de la légendaire incurie de l'armée française. Le fort de la Malmaison se situe dans le petit village de Chavignon, dans le département de l'Aisne, en Picardie, sur le chemin des Dames de triste mémoire. C'est à une vingtaine de kilomètres de Craon, le Craon de la célèbre chanson de révolte des Poilus.
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'il faut laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
Les ruines du fort de la Malmaison, témoignage parmi tant d'autres, de l'absurdité de la guerre, de la bêtise et de l'incompétence des états-majors français. Rectangle de 270 mètres sur 230, ce fort est déjà obsolète dès la fin de sa construction en 1882. L'armée française va donc tirer dessus au canon pour tester ses nouvelles munitions, puis abandonne le fort à la grande surprise de l'armée allemande qui s'en empare sans effort en 1914 et le fortifie au béton. L'armée française reprend le fort aux Allemands en 1917, qui le reprennent en mai 1918, puis les Français le reprennent en septembre 18 pour définitivement l'abandonner. Des cohortes de victimes qui auraient pu mourir ailleurs si l'état-major français avait fait ce qu'ont fait les Allemands, occuper et fortifier ce fort au lieu de l'abandonner à l'ennemi. Pathétique saga aujourd'hui rappelée par Didier Ledet, enfant du pays, historien amateur passionné, fouilleur de trous, comme il se définit lui-même, Didier que vous aurez déjà entendu dans cette émission, notamment quand il nous a fait visiter les bunkers d'Hitler de Margival. Didier va maintenant vous guider pendant une heure dans les ruines du fort de la Malmaison, aujourd'hui envahi, non pas par des soldats, mais par la forêt. Bonjour Didier.
Bonjour.
Deuxième épisode de notre balade sur cette commune de Chavignon, donc cimetière allemand et fort de Malmaison. On s'apprête à s'engager sur ce petit sentier forestier, mais un panneau avec un point d'exclamation. Site dangereux, interdit au public non accompagné d'un guide du centre d'accueil du visiteur des chemins des dames. Merci de votre compréhension. Quel est le danger? On va pas retrouver des munitions.
Non, le seul danger, c'est que les ruines sont instables, donc il peut y avoir des effondrements, des choses comme ça. Surtout, c'est qu'il y a encore des trous qui permettent de pénétrer à l'intérieur des souterrains. Et là, il y a danger de chute. Puis aussi, tu vois que la forêt, c'est une forêt sauvage. Tu as beaucoup d'arbres morts, risque aussi d'avoir des chutes de branches en cas de tempête et choses comme ça. Voilà. On risque rien, je connais bien les lieux et puis je ne vais pas vous emmener dans des endroits dangereux.
Alors voilà. Allons-y. Alors voilà, on arrive au bout de ce petit sentier et un escalier s'offre à nous.
On va pénétrer dans la première cour et on va pouvoir voir toutes les plateformes de tir, apercevoir l'observatoire béton allemand. Là, tu vois sur le côté, il y a une grille métallique, ah oui. Justement parce que la voûte de la casemate qui est en dessous est percée. Et donc, on pourra avoir des gens qui pourraient tomber dedans. Ce qui est malheureux, c'est que ce site qui était ouvert au public librement est fermé maintenant, puisqu'il n'y a que des visites guidées organisées. C'est malheureux, c'est parce que tout cet argent qui a été investi, et tu vois là, les rambardes en bois, bah, elles vieillissent mal parce qu'elles ne sont pas entretenues. Les arbres s'effondrent et cassent le mobilier, et puis voilà. Il manque toujours de gens qui ont la vision des choses. Il faut que des gens qui aient le feu sacré s'investissent. Alors, j'ai proposé plusieurs fois que le site soit récupéré par une association et qu'elle le fasse vivre avec des animations, des choses comme ça. Mais il y a toujours la peur de l'accident. Voilà, c'est toujours le propriétaire qui est responsable. Alors, voilà. Donc, il n'y a rien de fait. Il y a une visite une fois de temps en temps qui est organisée. Et puis, c'est tout. Le reste du temps, bah, ça reste à la merci de la végétation qui reprend. Là, ça fait 2 ans qu'ils ont arrêté les travaux de défrichage. Tu vois les ronces qui poussent. Dans 3-4 ans, bah, les chemins seront complètement envahis de ronces. Et puis, il retombera à l'abandon comme il était quand je l'ai découvert, quand j'avais 14 ans. Quoi. Parce qu'avant, il n'y avait pas tout ça. C'était vraiment une forêt et on venait à la découverte sauvage. Là, c'était intéressant.
Ah, il y a une bête qui vient de s'enfuir devant nous. C'était quoi ? Un chevreuil.
Ouais. Alors ici, c'est le royaume des chevreuils et des sangliers. Alors, on est devant un énorme trou. Tu vois un peu le trou qui est devant nous. Ce trou-là a été percé par un obus français au moment de la bataille du chemin des dames. Et on voit très bien que l'obus a percé toute l'épaisseur de terre et l'épaisseur de maçonnerie. Voilà.
Alors, quand tu dis trou, c'est quelque chose qui a bien une profondeur de 6-7 mètres. Hein,
voilà, c'est ça.
Un siècle après, il est toujours comme ça.
Alors on va faire le tour parce que je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Alors là, ici, on est sur une petite poudrière. Poudrière, c'est les endroits du fort où il y avait le plus de protection. On a 5 mètres de terre, normalement. On a 1 mètre de maçonnerie. Ensuite, 5 mètres de terre. Et tu vois que la terre n'a pas retenu la puissance de l'explosion.
Je resynthétise ce que tu racontais au dernier épisode. Fin du 19e siècle, on confie à un général la construction de forts. Or, on ne prend pas en compte l'évolution et les progrès de l'artillerie. L'armée française teste les nouvelles munitions qui sont inventées sur son propre fort en tirant dessus. Et on se rend compte que ces forts sont devenus complètement inopérants et inefficaces parce que les nouveaux canons, les nouveaux obus arrivent à les détruire. Ce fort, finalement, il va être désarmé par l'armée française.
Il est démilitarisé en 1911.
Un entrepreneur du coin va en devenir le propriétaire. Oui. Quand les Allemands vont arriver ici, ils vont être très surpris de voir que l'endroit n'est pas investi.
Les Allemands vont l'utiliser comme casernement, mais surtout c'est qu'il a une position stratégique. D'un côté on a vu sur l'Aisne, d'autre côté on a vu sur l'Aisne, et il va servir de ligne d'arrêt. Hein. Les Allemands vont réinstaller les canons que les Français n'avaient pas mis, et puis ils vont l'occuper jusqu'au mois d'octobre 1917.
Le fortifier en mettant des petits bunkers, des petits blocos équipés de mitrailleuses au béton.
De toute manière, on va aller voir la tour en béton armé là. Mais surtout, c'est qu'ils vont utiliser les carrières qui sont en dessous, puisque sous le fort, il y a une carrière souterraine de pierre dure, avec un plafond qui fait à peu près 3-4 mètres d'épaisseur de pierre dure. Et les carrières, elles vont résister au plus gros bombardement français. Donc si les Français avaient eu l'idée de faire ce que les Allemands ont fait, le fort en 1914, équipé, aurait pu arrêter ou moins limiter l'avancée allemande. Mais ce n'était pas dans la politique des généraux.
Ouais. C'est toujours étonnant, cette impression que l'armée française a toujours eu une guerre de retard.
Le général de Gaulle disait « la France a une guerre de retard, mais une défaite d'avance ». Voilà. C'est... Je vais aller vous montrer quelque chose. On va faire le tour, là. Donc, là, on voit bien la poudrière. Oui. Donc, ça fait...
C'est un autre trou d'obus, ça ?
C'est le même.
C'est le même.
On a fait le tour. D'accord. On a fait le tour du trou.
Ah oui, d'accord. Okay. Donc, il est plus grand que ce que je pensais.
Voilà, donc tu vois la profondeur
c'est
du trou.
C'est phénoménal, en fait. Ça veut dire que quand l'un de ces projectiles explose, c'est capable de faire, un trou de 10 mètres de diamètre. Donc, c'est bien plus, en fait.
Oui, bien sûr. Oui. Alors, là, tu vois, on voit le travail de maçonnerie. Comme je te disais, normalement, on devrait...
Au fond du cratère.
Au fond du cratère, on voit l'épaisseur de maçonnerie. Normalement, on devrait avoir une maçonnerie d'un mètre d'épaisseur. Ensuite, on devrait avoir un blocage qui devrait faire un mètre d'épaisseur. Et après, l'épaisseur de terre. Et là, on voit tout de suite que la maçonnerie, elle ne fait même pas 50 cm. Donc, on a fait des économies. Le blocage de pierre qui devait être cimenté, on voit que ça a été cimenté, mais au lieu d'avoir du ciment, c'est fait à la chaux. Donc, c'est de la pierre dure, c'est sûr, mais ça n'a pas la résistance prévue. Et c'est pour ça que les essais faits en 1886 et 94, eh bien, prouvent que les forts ne résistent pas. Voilà. Alors, normalement, j'ai caché quelque chose ici, si ça y est toujours.
Je suis en train de farfouiller dans les feuilles mortes, là, au pied d'un poteau.
Voilà.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Eh bien, ça, c'est le cul de l'obus qui a fait le trou. C'est un 220 mm, voilà, perforant. Alors tu vois, on a une épaisseur de 5 cm d'acier. Et au milieu, ce que tu vois, le petit truc jaune, c'est la fameuse mélinite. Le fameux explosif qui a été inventé par Eugène Turpin. Et c'est cet explosif que l'on trouve dans ces obus-là. Alors, il n'y a aucun danger, hein, parce que pour qu'il explose, il faudrait y mettre un détonateur. Mais donc, il y a un tout petit morceau qui est gros comme un œuf, un morceau de mélinite. C'est jaune, voilà. Alors on l'a appelé mélinite parce que c'est jaune citron. Mélinos, voilà, le citron. Un obus comme ça, donc qui fait cette hauteur-là, est capable de faire un trou comme ça. La puissance de l'explosif.
Oui, c'est relativement une petite chose pour un tel résultat, quoi.
Voilà. Alors on a toujours l'impression que c'est des gros obus qui ont fait des gros trous, pas toujours. Parce que le problème, c'est de la terre, et la terre, ça n'a pas de résistance énorme. Et là, on a plus de 5 kg d'acier. Et le morceau fait 22 cm de diamètre, 15 de haut et 5 d'épaisseur. Et là, j'ai plus de 5 kg d'acier dans les mains.
C'est relativement un petit objet, quoi.
Oui,
on dirait un gros...
On dirait un gros cendrier en acier. Ouais, voilà. Voilà. Donc, je le remets là parce que ça, je le montre aux visiteurs. Donc, on voit bien le résultat de la mauvaise étude de la fortification à l'époque. Alors... C'est Red Rivière, lorsqu'il s'aperçoit de ça, et le gouvernement va dire, il faut faire quelque chose, parce que les Allemands sont au courant de ça. Les espions, ils sont là. Hein. Ils savent qu'on a essayé les explosifs sur les forts. Les Allemands, eux, sur leur festung, ils vont, dans la région de Metz, ils vont bétonner, et nous, on va faire pareil à Verdun. On va bétonner. Ça veut dire qu'on va retravailler, on va enlever toute la terre qui a été mise sur les forts, on va y mettre du béton armé. Alors au début, on parle du béton, c'est-à-dire du béton sans ferraillage. On refait des essais, on s'aperçoit que le béton ne résiste pas. On va faire aussi des essais sur les blindages, sur les fameuses coupoles en fonte d'acier. On s'aperçoit qu'elles ne résistent pas, elles se fissurent. Et donc, on va déclencher une grosse campagne de travaux sur Verdun en bétonnant le fort de Vaux, le fort de Douaumont, et changer ces tourelles en fonte d'acier en faisant des tourelles en fonte cémentée, en acier cémenté. Voilà. Et ça va coûter rebelote des millions de francs or. Voilà.
Dans n'importe quelle circonstance, des choses qui touchent à l'État, comme pour quelqu'un qui finance, le bon peuple est toujours là. Par exemple, nos navires, qui vont si bien dans le fond de l'eau, va falloir les reconstruire, et cela va coûter gros. Les bons bateaux, qui ne marchent pas, qui perdent la fin, Celui qui travaille, qui se crève la peau, qui charge une marmaille et criblé d'impôts, qui vaille que vaille s'il ne marche pas. Celui qui travaille, on le saisira, et même sur la paille, on l'épera. Celui qui travaille.
L'histoire de cette ligne de front, c'est qu'elle avance, elle recule. Des fois, on perd des milliers d'hommes pour conquérir oui, une centaine de mètres, qu'on repère le coup d'après. Et là, en ce qui concerne donc ce fort de Malmaison, les Français finalement le délaissent. Les Allemands rentrent dedans comme dans du beurre, la grande surprise d'ailleurs de l'officier qui commande le truc. Quand est-ce que les Allemands prennent possession de l'endroit ?
Alors, ils arrivent ici, ils découvrent le fort le 1er septembre 1914. Ils vont s'y installer. Il va y avoir la bataille de la Marne. Ils vont ensuite se replier sur le fort. Ils reviennent ici aux alentours du 14 septembre, lorsque le chemin des dames est pris par les Allemands. Et ils vont y rester jusqu'au mois d'octobre 1917. Alors au début, ils vont en faire un casernement. Donc les Français savent que le fort est là, ils savent qu'il y a des Allemands dedans, donc ils vont le pilonner. Hein, il va subir des bombardements. Mais le gros du bombardement, ça sera en avril 1917. Mais entre septembre 1914 et avril 1917, eh bien, ils vont bétonner les endroits qui sont stratégiques dans le fort. Ils vont installer ces tours en béton armé, ces tours d'observation. Et puis, surtout, aménager les carrières qui sont en dessous. Et cet après-midi, on ira visiter une carrière qui a été occupée par les Allemands pendant toute la guerre. C'est une carrière, c'est des galeries qui font 5 mètres de haut, 10 mètres de large. Une carrière qui fait une surface de 2-3 hectares, quoi, où on pouvait mettre des milliers d'hommes au repos dedans.
Ouais. Donc les Allemands occupent donc cet endroit jusqu'à ce qu'il soit donc repris par les Français.
Il est repris par les Français en octobre 1917. Okay. En avril 1917, les Français ne viennent pas jusqu'ici. Okay. Ici, on est, toutes les bunkers que l'on a un peu partout font partie de la fameuse ligne Edinburgh, okay. Ligne de défense et d'arrêt. Voilà. Les Français ne viendront ici, n'arriveront ici qu'au mois d'octobre. Au mois d'avril, ils ne réussissent pas à monter sur le plateau, ou très peu, juste à s'accrocher aux lèvres du plateau. En mai, on va faire les dernières grandes offensives. Mai, juin, ce sont les mutineries, donc on arrête les grandes offensives. On se borne à faire des petites attaques ciblées pour récupérer des points stratégiques qui ne sont pas toujours repris. Et c'est seulement en octobre 17, quand Pétain reprend derrière Nivelles, que là, il va déclencher des opérations bien ciblées, comme l'attaque du fort de Malmaison, le 23 octobre 1917. Alors, 23 octobre 1917, il reprend le fort de Malmaison la veille de la reprise du fort de Douaumont, que Nivelles a repris le 24 octobre 1916. À chacun son fort.
Quand au bout d'8 jours, leur peau terminée, on va rejoindre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu aux civelots. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Trône sur le plateau, il faut laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
Nivelles, qui était un offensif. Pétain était un tacticien. Lui, c'était la logistique, des choses comme ça. Lorsqu'il a repris Verdun, Pétain, à un moment, les politiques ont dit « Mon général, il faut attaquer. Il faut reprendre l'effort, il faut attaquer. » Et Pétain disait « Non, j'ai pas assez d'hommes, j'ai pas assez de canons, j'attends les Américains, et ainsi de suite. » Il faut attaquer, mon général. Non. Nivelle a dit, moi, je peux préparer une opération ciblée pour reprendre le fort de Douaumont. Il réutilise les techniques allemandes, ça veut dire le barrage roulant, ça veut dire un barrage d'obus qui avance petit à petit, et derrière, les soldats qui avancent le plus près. Quand le barrage a passé les premières lignes allemandes et que les Allemands sortent de leur trou, les Français sont déjà dans les tranchées. C'est les Allemands qui ont inventé ça. Donc il reprend le fort de Douaumont le 24 octobre 1916. Et ça va le glorifier. Pétain, on lui demande de quitter son poste. Nivelle prend de l'envergure. Et il dit, moi je suis capable de percer le front n'importe comment grâce à ma technique. On lui dit, mais vous allez percer où? Et l'endroit le plus calme de la ligne de front, c'est le chemin des dames. Un endroit où on envoie les soldats au repos, ceux qui descendent de Verdun. Petit coin pépère, où les hommes vont cueillir le muguet au mois de mai et ramasser des morilles au mois d'avril. Il prépare cette offensive. Malheureusement, cette offensive, elle fait tellement de bruit que tout le monde est au courant. Il faut vraiment être idiot pour ne pas savoir que Nivelle va attaquer au chemin des dames. Les Allemands décident de fortifier. En plus, début avril, ils font un repli stratégique de manière à récupérer le maximum de troupes. C'est-à-dire tous les endroits qui n'ont pas une valeur stratégique sont évacués. Ils vont même détruire là le fameux château de Coucy-le-Château. Et ensuite, ils s'installent sur le chemin des dames et ils attendent les Français. Offensive qui ne marche pas. Au mois de juillet, Nivelle, malheureusement, n'a pas réussi à percer le front. Et on lui demande gentiment de s'effacer. Mais le problème, c'est qu'il y a les mutineries. Et les mutineries, il y a deux solutions. Soit on tue tous ceux qui se sont mutinés. Donc il va y avoir sur 500 condamnations à mort, il y en aura quand même 50 d'exécutés. Et là, on cherche quelqu'un pour calmer le jeu. Et on va aller rechercher Pétain. Pétain, qui est un très bon organisateur. Donc Pétain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, que veulent les hommes? Des permissions et bien manger. Il va mettre ça en place. Il va quand même faire accepter que certains souhaitent exécuter pour faire un exemple. Et on lui redit à un moment, bon général, il faut attaquer maintenant. Ah, ils vont me refaire le coup de Verdun. Donc ok, je vais attaquer. Mais là, je vais attaquer un petit objectif et on va bien le préparer. Donc maintenant, j'ai les Américains. Il y a des troupes anglaises sur le chemin des dames. J'ai des chars, j'ai de l'aviation. J'attaque le fort de Malmaison et j'attaque le 23 octobre 1917. Et le 4e Zouave prend le fort le 23 octobre 1917. Nivelle avait Douaumont, Pétain à le fort de Malmaison. Voilà. C'est la politique. Et ça a permis de redonner du boost à l'armée française, puisqu'après, on a enfin passé le chemin des dames. Le soir du 23, des soldats français sont dans la vallée de l'Ailette à Chavignon. Mais ils sont arrêtés sur l'Ailette parce que les Allemands ont fortifié toute la vallée de l'Ailette. Et là, ils ont aussi construit des blockhaus et ils attendent les Français. Le 28 mai 1918, c'est la grande offensive allemande. Ils partent de l'Ailette, ils remontent sur le chemin des dames, ils reprennent le fort de Malmaison. Ensuite, ils vont aller jusqu'à Château-Thierry. Et le fort de Malmaison sera définitivement repris par les Français au mois de septembre 1918. Il va être repris, mais la ligne de front va être abandonnée puisque les Français reprennent là au mois d'octobre et ainsi de suite. Et à partir de ce moment-là, le fort est complètement abandonné. Voilà. Ça va être l'armistice, la végétation, comme je te disais tout à l'heure. L'herbe, les ronces vont vite repousser. Et puis, ça va devenir un site de pèlerinage pour les anciens combattants. Puis après, les combattants ne reviennent plus. Puis ça devient une forêt. Et puis il faudra attendre les années 2000 où on commence à parler un petit peu de mettre en valeur le chemin des dames. Voilà. Pendant toute la période 1970-1980, il y a certains anciens combattants de la Première Guerre qui ont fait des choses pour qu'on n'oublie pas le chemin des dames. Et puis dans les années 2000, c'était même avant, quand Jospin vient à Craonne, et que là, on parle de réintégrer dans la mémoire collective les mutineries, tout ça. Et à partir de ce moment-là, le chemin des dames va commencer à ressortir de l'oubli, et on va lancer des projets d'aménagement, dont le fort de Malmaison. On va déboiser, on va faire venir des chevaux de trait qui vont déboiser. On va sécuriser, avec des barrières, certains trous pour que les gens puissent voir. Et puis, ben, on s'aperçoit qu'il y a trop de munitions, que ça coûte trop cher à faire venir un service de déminage. Alors, on ferme le site, visitable que sur réservation. Et puis, ben voilà, le résultat, tout est à l'abandon. Les barrières sont pourries, sont tombées. Les arbres morts envahissent les chemins. Et puis, dans 10 ans, ben, s'il n'y a rien de fait, ben, ça sera le fort de Malmaison que j'ai connu quand j'avais 12 ans, la première fois. Voilà. Donc là, on va aller voir la tour en béton, hein, l'observatoire allemand en béton. Voilà. Alors, je vais regarder avant, voir si le chemin est praticable.
Il y a des lianes, il y a des branchages partout. Et là, on arrive devant le vestige d'une très grosse maçonnerie. Ah ouais, puis il y en a derrière. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, c'est très conséquent quand même. Hein.
Tu vois tout de suite, hein, quand tu regardes la qualité de la construction, on voit très bien que la maçonnerie, alors les parements sont très beaux, hein, des belles pierres de taille, mais on voit rapidement dans la maçonnerie qu'il y a eu du blocage qui a été fait un peu à la « vas-y, je t'en fous ». Quoi. Hein. Tu as des belles pierres bien taillées qui font les voûtes, mais derrière, c'est du moellon qui est cimenté. Et quand je dis cimenté, on voit très bien qu'il y a beaucoup de vide entre les pierres. Et c'est pour ça que la fortification ne résiste pas. Hein, tu vois là, on n'a pas les 1 mètre d'épaisseur de maçonnerie qu'on devrait avoir. Hein, on n'a pas les 1 mètre de blocage et on n'a pas les 5 mètres de terre qui devaient protéger. Entre le cahier des charges et la finalité de la réalisation, il y a un gros laisser-aller. Donc tout ça, ça n'a pas résisté au bombardement. Voilà. Donc tu vois ici, c'est une cour. Là, normalement, il faut imaginer des façades. Tout ça, ce sont des chambrées. Donc tu as 2 niveaux de chambrées. Là, tu as une cour, il y avait la grande cour et la petite cour. Et au-dessus, on va aller voir.
Alors là, on est en train de crapahuter sur un sentier qu'on doit aux chevreuils, tu dis ?
Ouais, les chevreuils et les sangliers.
Les chevreuils et les sangliers, ouais. Ben, merci à eux.
Alors, on est sur le point le plus haut du fort. On est juste au-dessus de la grande poudrière qui est en dessous. Là, devant nous, on a la tour en béton armé de l'observatoire qui a été construite par les Allemands.
En fait, c'est complètement recouvert de lierre et voilà. Tout, mais en fait, maintenant que tu le montres, effectivement, on voit qu'il y a cette construction.
En béton armé. Ouais. À l'intérieur, il y a un puits, et ce puits descend jusque dans la carrière qui est en dessous. Puisqu'à l'époque de la construction, il y avait un grand treuil qui permettait de sortir la pierre directement. Uh-huh. Et sur notre droite, on a la grande cour, avec les plateformes de tir. Donc tu vois, on a des petites casemates, et entre chaque casemate, eh bien, il y avait des canons. Tu vois, on imagine bien ces canons, ces fameux canons à ciel ouvert, à la merci des obus à balles. Et en dessous, on a ce qu'on appelle les courtines. Ce sont des galeries souterraines qui font tout le tour, qui permettent aux hommes de passer d'une casemate aux poudrières sans être à la merci des tirs de l'ennemi. Donc tu vois à peu près...
C'est très conséquent, on pouvait caserner combien d'hommes ici ?
Alors, le fort, en état de siège de guerre, pouvait avoir jusqu'à 800 hommes. Et il y avait 36 pièces d'artillerie. Pièces d'artillerie, on a... Normalement, il aurait dû être équipé de 155 de Bange, le canon ultramoderne de l'époque. Il y a donc des 155, des 120 mm. On a encore beaucoup de canons à poudre noire de la bataille de 70, hein. Faut quand même pas faire chiche. Hein. Donc on ressort des vieux canons qui sont obsolètes. Ils ont une capacité de tir de 2-3 km, donc c'est ridicule. Puis on a ces gros obusiers de 220 mm, ces mortiers. Alors ce sont des mortiers qui ont un tir courbe, donc ils tirent à maximum à, on va dire, millimètres. Et encore, je suis large, quoi. Voilà. Alors ce fort ne sera jamais équipé, parce que ce sont des forts de guerre. Donc dès l'instant où ils sont construits, il y a une compagnie de casernement qui va venir s'installer. Alors, ils sont peut-être une dizaine d'hommes, une vingtaine d'hommes. Ils sont juste chargés d'entretenir le fort. Ça veut dire de vérifier que tout se passe bien, d'entretenir, voilà, peut-être aussi couper un peu d'herbe quand la végétation elle commence à pousser. Mais il n'y a pas de casernement, il n'y a pas de troupes dans le fort. Les troupes sont dans les régiments allants, voilà, et aux alentours. Et en cas de risque, eh bien, ces troupes vont venir prendre position du fort. Tous les canons qui sont à Allan vont être amenés ici et mis en batterie. Mais ça ne sera jamais fait.
Je ne me rends pas bien compte de la superficie du fort.
Alors, le fort fait 270 mètres de long par 230 mètres. Bon, il y a 2 hectares et demi. Ça fait 2 hectares et demi. Le fort est forme rectangulaire avec un fossé qui fait tout le tour. Deux caponnières, donc ce sont des endroits fortifiés qui évitent que des hommes puissent descendre dans les fossés. Alors tu vois, lorsque l'entrepreneur en maçonnerie va le récupérer, bien, il va commencer à démonter toutes les pierres qui sont utilisables pour reconstruire des maisons, des choses comme ça. Alors ce puits-là, il sera construit sûrement 1916-1917, cet observatoire. Et c'est les Français qui le feront sauter au mois d'octobre 1917 lorsqu'ils vont prendre le fort. Parce que ils savent que les Allemands peuvent revenir. Donc on va faire le maximum de destruction pour leur éviter de pouvoir le réutiliser. Ce que les Français n'ont pas fait, les Allemands l'ont fait. C'est incroyable l'engouement que les Allemands ont pour le béton armé en France. Ils ont construit toutes les fortifications, les Festung de Metz, la région de Metz. Des forts allemands qui ont été construits entre 1870 et 1914 ont même servi d'image de propagande pour la ligne Maginot. Hein. Les images de la ligne Maginot, on voit des festungs allemandes de la Première Guerre mondiale. C'est des millions de mètres cubes de béton qu'ils ont coulé en France. Quoi. Ils adorent le béton armé, les Allemands. Voilà.
Sans évoquer le fameux mur de l'Atlantique, etc. Ouais, on l'avait évoqué d'ailleurs lors de notre balade à Margival, avec du bon béton français, signé Lafarge et compagnie. Quand ouais, même. Ouais. Il y en a quand même qui s'en sont mis plein les fouilles au passage. Pour revenir à la vocation militaire de ce fort de Malmaison, bon là on a parlé de 14-18, il va reprendre du service si j'ose dire en 40.
Pas du tout, il est complètement en ruine. J'ai quelques photos où on voit des soldats allemands en juin 1940 au repos dans le fort, donc ils s'abritent dans les ruines. Mais il n'a aucune vocation militaire. Non, il n'a servi à rien. La campagne de 1940, Weygand va essayer d'arrêter les Allemands sur l'Aisne. Donc les Allemands arrivent ici fin mai. Ils vont s'observer et le 5 juin 1940, les Allemands déclenchent l'offensive, 5-6 juin. Et le 9 juin, l'Aisne est passée et la porte de Paris est ouverte. Quoi. Voilà. 14 juin, ils arrivent à Paris. Non, le fort de Malmaison, le chemin des dames, n'a plus aucun intérêt stratégique. Voilà. On est passé de la guerre de position à une guerre de mouvement. On va redescendre et on va passer dans la grande cour. D'après les livres que j'ai lus, il a fallu 600 ouvriers pour construire le fort. Ouais. Alors à l'époque, il n'y a pas de grue, il n'y a pas de choses comme ça. C'est tout fait en terrassement à la main. J'ai vu quelques gravures dans un livre où on voit les constructions serrées de rivières qui ont été faites du côté de l'Est. C'était à la pioche, à la pelle. Voilà. C'est énorme. Hein. 2 hectares à terrasser. Ensuite, donc faire le gros trou, construire les maçonneries intérieures, puis après recouvrir de terre. C'est... La manœuvre était pas chère à l'époque. Hein.
Alors on redescend une volée de marches.
Et on va arriver dans la grande cour.
Donc nous voilà plus bas dans la grande cour du fort, donc cet endroit qu'on observait du point culminant tout à l'heure.
En béton, elle est là.
Ouais. Ok, donc on était là-haut tout à l'heure.
Et là, on est descendu dans la grande cour. Et là, on voit encore les 3 seules casemates de tir qui restent avec les plateformes où devaient être installés les canons. Alors, on voit très bien que, sachant que le fort, il n'y a pas de forêt à l'époque, ce sont des pelouses hein, sur les terres, les canons à ciel ouvert étaient à la merci des bombardements. Hein. Alors, comme je disais tout à l'heure, au fort de Condé, ils vont mettre 2 canons sous casemate, mais les modernisations coûtent trop cher, beaucoup trop cher. Voilà. Il faut complètement reprendre toute l'infrastructure, donc on abandonne. Voilà, on abandonne tous les forts de l'an, que l'on ait la Niscourt, la Citadelle, tous les forts de la ceinture de l'an sont démilitarisés. Voilà. Et on s'était même aperçu d'une chose, c'est que le fort de Lanniscourt, par exemple, a été implanté le plus près possible de la carrière où on a tiré de la pierre, mais ils se sont aperçus qu'il y avait un trou dans la portée des canons. Les canons, à l'époque, ont une portée de 14 km. Et lorsqu'ils ont fait ce qu'on appelle le plan de tir, ils se sont aperçus que le fort de Lanniscourt, qui est en face de l'autre côté avec le fort de Malmaison, donc se couvrent mutuellement. Donc les forts couvrent l'espace qui est entre les deux. Mais entre le fort de Lanescourt et la batterie Morlot qui est à Talant, ils se sont aperçus qu'il y avait un trou de 2 km. La portée des canons n'était pas assez grande et il y avait un trou de 2 km. Et 2 km, c'est énorme. 2 km de trou, ça permet à une armée de passer. Et donc, on va débloquer des crédits supérieurs pour reconstruire une petite batterie excentrée du fort de manière à boucher ces 2 km de trou. Voilà. Pourtant, c'est simple. Ingénieur du génie, une règle, un compas. Et non, ils n'avaient pas pensé. Tout ça pour gagner de l'argent pour la construction. Parce qu'il y avait 2 km de transport en plus et c'est des millions de francs. Voilà. Encore une aberration du génie militaire.
Ça laisse sans voix.
La ligne Maginot, pareil, on a recommencé avec la ligne Maginot. Les Allemands, lorsqu'ils ont découvert la ligne Maginot, plutôt que de l'attaquer, parce qu'ils savaient qu'elle était imprenable, la ligne Maginot, c'était des grosses fortifications, des gros bunkers de la ligne Maginot, eh bien, ils se sont dit, on va utiliser les points faibles. Et les points faibles, c'était les entrées de plein pied, ils sont arrivés par derrière. Personne n'avait eu l'idée de faire des gros tas de terre pour empêcher des tirs directs dans les portes blindées. Et quand les Allemands arrivaient par derrière, eh bien avec un canon de 37 mm en t-shirt, ils arrivaient à faire des trous dans les portes blindées. Des aberrations. Des aberrations. Hein. Les Allemands, plutôt que de détruire les blocos de la ligne Maginot, les enterraient avec leurs grosses bombes de 500 kg. Alors les soldats étaient enfermés dans un blocos, ils ne pouvaient pas tirer parce que les créneaux étaient bouchés, ils ne pouvaient pas sortir parce que les entrées étaient bouchées, donc eh bien, ils attendaient qu'on vienne les libérer. Voilà. La fortification, de toute manière, depuis sa création, c'est un piège à cons. Les Romains le savaient. Lorsqu'ils ont attaqué Alésia, ils ont entouré Alésia d'une première ceinture et ensuite d'une deuxième ceinture. Personne ne rentre, personne ne sort. Quand vous aurez faim, ben, voilà, vous vous rendrez. Toutes les fortifications, que ce soit les châteaux forts, même la ligne Maginot. La ligne Maginot, elle pouvait résister 3 mois. Au bout de 3 mois, il n'y avait plus rien à manger. Donc c'est un beau piège à rat, un piège à con, moi je dis toujours. Parce que s'il n'y a personne pour défendre la fortification, voilà.
Avec les réserves nécessaires.
Voilà, c'est ça. Ces forts-là n'avaient pas vocation d'être attaqués. Ils avaient une vocation, avec leur artillerie, d'empêcher que l'ennemi ne passe dans la vallée. Voilà. Et il y avait des régiments d'infanterie qui étaient chargés de contre-attaquer. Voilà. C'est des points forts, mais avec aucune valeur militairement causant, chef.
8 jours de tranchée, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasse rappelé qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs viennent chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'il faut laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
Ici, là, tu disais, nous sommes dans la grande cour, ouais. Mais en fait, le terrain est complètement chamboulé. Il y a des cratères. Là, ce qu'on voit, ce sont des vestiges de cratères, de trous d'obus.
Les Français, lorsqu'ils vont reprendre le fort au mois d'octobre, vont tirer avec du gros calibre, du 420 mm. Donc, des obus qui font 42 cm de diamètre, qui font plus de 100 kg. Donc, ce sont des obus énormes. Ils savent que le fort est en ruine, mais en dessous, il y a les carrières. Et il faut percer les carrières, parce que les Allemands sont en dessous. Ils sont bien à l'abri, parce que la pierre en dessous est très très dure, c'est de la pierre dure. Elle a la vocation du béton armé. Et les Allemands le savent, donc ils sont cachés en dessous. On va aller voir les courtines souterraines.
Se présente à nous l'entrée j'allais dire d'un souterrain, enfin en tout cas ça oui, ça va sous terre, il y a une belle arche de pierre avec des ronces qui tombent et on rentre donc et au-dessus de nous une voûte en briques, ça fait quoi, 3 mètres de hauteur quasiment, ouais. Puis alors ça court, là sur notre gauche il y a un couloir, ça va je ne sais où, et à droite pareil. Alors,
ce couloir là fait tout le tour du fort. Alors là, ici, on est sous les classements de tir. Donc, il fait tout le tour du fort. Ça permet aux hommes d'aller aux poudrières chercher les munitions et de les ramener à chaque canon. Alors ici, on a un petit escalier. Tu vois. Attention, il y a une pierre là. Là, il y a un petit escalier qui permet de monter et on arrive directement sur la plateforme. La poudre se trouve dans les poudrières. Donc, il y a des poudrières où on a la poudre et des poudrières où on a les amorces. Parce qu'on ne mélange pas les deux pour éviter les explosions. Et c'est pour ça que tu as deux niches de chaque côté. Tu as une niche où on met les gargousses de poudre et une niche où on met les paquets d'amorces. Voilà. Alors, le système du canon, c'est simple. C'est un canon qui s'ouvre, un canon rayé. On enfile un obus dedans. Ensuite, derrière, on va mettre une gargousse. C'est un sac en tissu ou en papier rempli de poudre. On ferme et sur la culasse du canon, on va y mettre une amorce. Ça ressemble à une petite cartouche. Hein, et c'est ça qui va faire la flamme pour tirer. Donc, par mesure de sécurité, on ne mélange pas les deux. Ensuite, dans les poudrières, il n'y a aucune flamme qui pénètre à l'intérieur. Tous les éclairages se font de l'extérieur. Et la poudre est déplacée couramment pour la faire sécher. C'est-à-dire, on sait que dans les poudrières, la poudre peut s'agglomérer, s'humidifier. Donc, eh bien, on va, lorsque les forces sont utilisées, déplacer la poudre souvent pour la faire sécher. Comme je disais tout à l'heure, il n'y avait qu'une compagnie de casernement qui s'occupait du fort. Et je n'ai pas connaissance de matériel qui était amené, aussi bien un canon que poutre ou quoi que ce soit. En 1882, la fin des travaux, 1886, les premiers essais, donc 4 ans. Voilà. Ça a été détruit avant d'avoir servi. Voilà. Et on va réparer les destructions. Hein. Les voûtes vont être réparées. Et en 94, on recommence. Hein. Voilà. On n'a pas bien compris la première fois. Attention à la pierre.
Ouais. Alors, je comprends pourquoi il y a des panneaux... Danger, Hartung, entrée interdite. C'est cette espèce de trappe là au-dessus de toi.
Ça permet de monter des munitions, des choses comme ça, directement dans la... Et après, bon, après c'est effondré. Hein, voilà. Ouais. Mais cette galerie fait tout le tour. On passe des cours aux casemates de tir, on passe aux poudrières, tout ça. Voilà. On est à l'abri des tirs extérieurs, des bombardements. Quand tu vois la maçonnerie, c'est vrai qu'elle est belle. Hein. Ouais. Elle est belle, mais normalement, elle devrait faire un mètre d'épaisseur. Mais derrière, tout de suite, c'est du blocage, comme on a vu tout à l'heure. Du déchet d'extraction de pierre mélangé avec un mauvais ciment. Et puis voilà, ça ne résiste pas.
Bon, je suis en train de toucher le mur, là. Il reste sain. Ça, c'est pas du tout pourri d'humidité. Et
ah
tout
non,
ça,
c'est de la bonne pierre.
C'est, voilà,
ici,
ça tient bien.
De la bonne pierre. De toute manière, cette pierre-là a même été exploitée du temps d'Haussmann, puisque la plupart des carrières qu'on a sur le chemin des dames travaillaient pour Haussmann. Donc, vous avez beaucoup de pierres sur Paris qui viennent d'ici. Donc, voilà. Pour faire des économies, eh bien, au lieu d'avoir une voûte en pierre, eh bien, on fait des voûtes en briques. On met des briques à champ. Donc, une épaisseur de brique, ça fait 15 cm. Donc, on voit tout de suite là, la fissure au plafond. Le bombardement ne l'a pas laissé intact.
Bah, quelle construction quand même, hein,
Et
sans les gros engins dont on dispose aujourd'hui, effectivement, hein, c'est très impressionnant.
Ouais, là-bas, on avait un escalier pour monter, mais ici, on a des bancs de charge. On peut directement monter des paniers remplis d'obus, soit de gargousses de poudre. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Des bancs de charge tout simples, hein, une poulie avec des paniers, puis voilà. Le fort est équipé de deux puits. Les puits font 70 mètres de profondeur. Parce que la nappe phréatique est à 70 mètres. 800 hommes, 36 canons au maximum. Et tout ça qui n'a jamais servi. Le pognon des Français est passé là-dedans à l'époque. Voilà. On n'a rien compris parce qu'on continue. On recommence. On va monter.
Hop. Donc on est sorti, retour dans la grande cour. Plutôt ce champ de cratère. Où la végétation a repris ses droits. C'est très verdoyant.
Avant, le département entretenait tout ça. Donc, on pouvait voir la tour en béton. Tout ça. Ben là, tu vois, ça fait 3 ans qu'il n'y a plus de nettoyage. Bon, ben, les ronces reprennent. Tout ça. Alors là, on va aller sur la partie nord du fort, où se trouvait l'entrée originale. Et tu vas comprendre en voyant le panorama, la position stratégique du fort.
On arrive sur un beau panorama là.
Là tu vois pourquoi le fort a été construit ici. À vol d'oiseau ici, on a dans cette direction là, bon on le voit pas parce qu'il y a des friches, mais tu as le fort de Lanniscourt, ce fameux fort qui avait été construit 2 km trop loin. On a la ville de Laon avec la citadelle et la batterie Borloo. Donc là on dépend de la place forte de Laon. Il y avait un sémaphore optique à la ville pour pouvoir communiquer avec les autres forts. Là on a le fort de Montenot qui est juste de l'autre côté, sur l'autre colline. Les deux forts barrent la vallée. Ensuite on a le fort de Bruyères, pareil. Et derrière on a le fort de Condé. Tous ces forts-là barrent le chemin des invasions qui est juste en face de nous, puisque toutes les invasions, que ce soit 1870, 1914 ou 1940, eh bien les invasions allemandes, on va dire, sont arrivées par là. Le premier fort d'arrêt, c'était le fort de Hirson et d'Avesnes-sur-Helpe. Pareil, quand les Allemands sont arrivés avec leur grosse Bertha, eh bien ils les ont trouvés vides, complètement vides, pas de canon, pas de troupes, rien, en friche comme ici, à l'abandon. Et Molck dit, mais pourquoi ils n'ont pas installé des troupes? Même si les forts n'avaient pas résisté, ils nous auraient ralenti. Voilà. Mais non. La ville de Laon, tu avais à l'époque 4 casernes à la ville de Laon, vides. La population, le maire de Laon, au mois de septembre, avait évacué. Les pauvres gens qui étaient restés dans la ville de Laon, ont ouvert leurs fenêtres pour leur voler, pour voir arriver les Prussiens, parce qu'à l'époque on disait les Prussiens. Puis voilà, en 1870 c'est pareil. 1870, quand la ville est prise par les Prussiens, l'adjudant Henriot, un artilleur, qui est responsable de la grosse poudrière de la citadelle, décide de se suicider en faisant sauter la poudrière. Donc 28 tonnes de poudre qui vont exploser. La cathédrale de Laon va avoir une partie de ses vitraux qui vont être soufflés. Il va y avoir 21 soldats français qui seront tués et presque autant de Prussiens. Voilà, c'est le seul gloriole, mais la ville ne combat pas. Voilà, si l'adjudant Henriot ne se suicide pas en faisant sauter la poudrière, il n'y a aucun fait d'armes dans la ville. Pourtant, la ville a été fortifiée depuis le Moyen-Âge, prévue comme ligne d'arrêt, puis jamais. En 40, pareil. Les Allemands arrivent à Laon en 40, il n'y a plus personne. Les régiments sont en débandade, ils prennent la ville, pas de combat, rien. C'est incroyable quand même. Dépenser comme Margival, des centaines de milliers de mètres cubes de béton coulés pour une conférence qui va durer 2 heures, qui n'a eu aucun intérêt. Aucun intérêt. Tout à l'heure, on parlait de Nivelles, de l'attaque du 16 avril 17. Lorsque les poilus vont sortir des tranchées, donc derrière moi, pour monter à l'assaut du chemin Enam, eh bien, à 5h45, Nivelles est à Chantilly, en pyjama de satin, en train de boire un chocolat. Voilà. Alors que ces hommes sont en train de se faire hacher menu par les mitrailleuses et l'artillerie allemande. Voilà. En reparlant de l'utilisation du fort par les Allemands, tu vois là, on a à un petit kilomètre, là, on a la forêt qui est accrochée au versant nord du chemin des Dames. Eh bien, les Allemands, pour permettre la communication entre l'arrière et le front, eh bien, ils vont percer des galeries. Voilà. Percer des galeries qui font plusieurs centaines de mètres, de manière à ce que les hommes puissent, à l'abri des bombardements, aller des zones de repos jusqu'en première ligne. Et c'est ça que les déserteurs alsaciens vont dire aux officiers français, attention, les Allemands ont creusé, ils sont enterrés, ils vous attendent, ils sont enterrés. Mais allez, on y va quand même. La veille de l'attaque du fort de Malmaison, les 48 heures qui ont précédé l'attaque, ils ont tiré 6 millions d'obus. On ne s'imagine pas, 6 millions d'obus. Entre l'Ange Gardien et la Royère, il y a 6-10 km maximum. Ça fait 1 million d'obus par kilomètre linéaire. La vallée, entre la partie, le versant nord et le versant sud, il y a un vol d'oiseau, il y a 3 km. Donc tu imagines la concentration d'obus au mètre carré. Mon père disait toujours que pendant la guerre de 14, au chemin des Dames, il est tombé 20 tonnes d'obus à l'hectare sur l'ensemble de la guerre. 20 tonnes. Voilà. Sachant que 20% n'explosait pas, donc t'imagines le nombre d'obus qui reste encore en dessous. Voilà. Quand tu vois l'étendue des destructions, il faut savoir c'est que sous ces ruines, il y a encore des hommes. Parce que pendant les bombardements français ou allemands, des hommes sont morts dans le fort. Il y a eu des gens qui ont été ensevelis. Peut-être que dans des cagnas qui sont sous le fort, qui sont complètement bouchés, se trouvent des hommes qui ont été ensevelis sous les gravats. Donc en plus d'être un site historique, c'est aussi une nécropole. Alors maintenant, lorsque des ossements sont trouvés, avant on faisait appel au service des sépultures, soit allemande si on savait que c'était un allemand, soit français si c'était un français. Maintenant, il faut prévenir la gendarmerie, et c'est la gendarmerie qui décide de savoir si c'est la police scientifique qui doit faire des prélèvements, parce que ça peut être... Voilà. Alors que c'est complètement stupide, lorsque tu trouves des ossements puis qu'à côté tu as des boutons, des bouts de brodequins ou des choses comme ça, tu sais que c'est un soldat allemand ou français, mais maintenant c'est le protocole. Voilà.
Ah la vache, alors là on s'approche.
Vois, ça c'est des effondrements qui n'existaient pas il y a 10 ans.
Okay.
Ça s'effondre, voilà, tout doucement ça s'effondre. Alors là on voit qu'il y en a qui ont été gratouillés dedans, qui ont été farfouillés dedans. Tu en as un peu partout, hein. Et je te dis, peut-être qu'en dessous, il y a encore des corps.
Mais ce que tu disais sur les allées et venues, tant il y a eu des allées et venues de troupes, tantôt les Allemands, tantôt les Français, mais il y a aussi des allées et venues de la conscience historique. C'est-à-dire que tu disais, en gros, on a oublié cet endroit. Enfin bon, les anciens combattants l'ont un peu célébré. Et puis ils ont disparu mécaniquement, ceux de 14-18. Après, il y a des décennies. Alors là, on passe sur un petit pont. On se demande si les planches sont vermoulues. C'est gentil de tester les planches juste avant moi, pendant que je suis en train de faire de la philo, là. Donc, il y a des décennies d'oubli. Cet endroit est rendu à la nature. Ouais. Finalement, un sursaut historique. Tu disais, sous l'époque Jospin, dans les années 80, ouais, on décide de faire de ce lieu un lieu de mémoire. Ouais. Et puis, finalement, on le laisse retomber en désuétude. Après, la main sur les cœurs, on va dire, ah, la guerre, grosse malheur, nos amis allemands, c'est terrible. Et puis, finalement, bon, l'histoire retombe dans l'oubli, la nature reprend ses droits. Et cet endroit, il indique aussi ça, ce degré de conscience que la guerre, c'est pas un truc souhaitable, en fait.
Mais le problème, c'est que l'homme oublie trop vite. Il oublie trop vite, et ce qui se passe en Ukraine, on a l'impression de voir se reproduire ce qui s'est passé avec les Balkans en 14, ce qui s'est passé avec Danzig en 40. Voilà, l'homme ne comprend pas et il recommence. Voilà. La course à l'armement, c'est moi qui ai la plus grosse, c'est moi qui ai le plus gros. Mais tout ça, c'est une histoire de pognon. Mais l'homme ne comprend pas. Et puis, moi, je crois une chose, c'est qu'il aime ça. C'est dans sa nature, il aime. Il aime le conflit.
Il y en a qui aiment ça.
Ouais. Mais c'est cela qu'on met au gouvernement aussi. C'est malheureux.
On fait souvent le constat, quand tu prends 10 personnes, il y en a toujours une pour foutre la merde, alors que les 9 autres sont pacifiques. Ouais. Généralement, c'est ceux-là qui l'emportent, parce qu'ils crient plus fort.
Ouais, voilà, tu prends Jaurès, c'était un pacifiste, tout ça. Il avait des millions de personnes derrière lui, aussi bien en Allemagne qu'en Angleterre. Pas la guerre, pas la guerre. Et puis la guerre, elle arrivait quand même. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la guerre, elle n'est possible que si les chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, décident de donner les pleins pouvoirs au gouvernement pour faire la guerre. Si ces hommes politiques avaient dit non, on laisse les Balkans se débrouiller avec Sarajevo et compagnie. Et puis nous... on a nos fortifications, on reste chez nous, et puis voilà. Mais non, non, les alliances. Et les alliances, pourquoi ? Pour l'argent. Pour l'argent, c'est tout. On ne fait pas des alliances avec son voisin parce qu'il a des beaux yeux. On fait des alliances avec son voisin parce qu'il a des intérêts. Voilà. Avec l'Ukraine...
À se redemander si l'histoire nous enseigne quoi que ce soit. On en parlait la semaine dernière, au précédent épisode, en 1914, on nous a dit hey « Eh les gars, il y a un archiduc qui s'est fait dessouder loin de chez nous dans les Balkans, ça nous regarde. Non, non, c'est loin, mais faut qu'on y aille. » Et aujourd'hui, Poutine, il n'est pas pire que les nôtres, mais c'est toujours l'autre, hein, le vilain. Les nôtres sont tellement bien. Kiev a été la capitale de la Russie pendant des siècles. Et j'entends des va-t-en-guerre, des machins, dire « Oui, la démocratie, l'Ukraine. » J'ai dit « Mais vas-y, prends un fusil, toi. Vas-y défendre l'Ukraine. Moi, j'irai pas. Et de toute façon, on peut faire de des rhodomontades, bon, Beltorse, etc. En attendant, les Russes, là, ils en ont sous le pied. Et le jour où ils décideront vraiment de s'agacer, en fait, ils peuvent nous en coller deux ou trois qui nous feront très mal. Hein.
Churchill avait dit une chose juste au moment des accords, ça devait être à Yalta. Il a dit, il ne faut pas chatouiller les moustaches de l'ours russe. Cette parole est toujours d'actualité, parce que les Russes sont quand même des gens qui sont très patriotiques.
Poutine est le salopard qu'on sait, mais les nôtres ne sont pas mieux de toute façon. Mais ça fait 20 ans qu'il dit Poutine à l'Occident. Nous, on veut bien participer au concert capitaliste formidable, nous aussi. On veut consommer, on veut nager là-dedans, etc. On vous aide à traquer Ben Laden, on vous tout ce que vous voulez. Mais surtout, vous foutez pas vos missiles sur nos frontières. On se souviendra qu'en 62, par exemple, les Américains ont très moyennement apprécié que les Russes viennent installer des missiles à 150 km des côtes de la Floride. Ça leur a pas plu. Bon, on peut comprendre ça. Et Poutine, tout ce qu'il soit, salopard, mafieux, oligarque, tout ce que tu veux, comme les nôtres, quoi. Hein. Mais Poutine a été toujours très clair là-dessus, c'est vous mettez pas de missiles de l'OTAN sur ma frontière.
Ça a été signé, ces accords-là.
Et voilà. Donc après, j'entends à France Inter et je ne sais où dire « Ah, Poutine est fou !» Bah non, Poutine, c'est peut-être un salopard, mais en fait, il se comporte comme un chef d'État qui veille sur les intérêts de son État.
C'est malheureux. Comme ici, ça a été une histoire d'argent, parce qu'on avait perdu l'Alsace-Lorraine-Moselle. On s'était pris un an d'occupation. Paris avait été occupé un an par les Prussiens. Il fallait que la France redevienne une grande puissance, qu'on montre aux autres qu'on en avait dans le pantalon. Donc on a fait des fortifications. On a dépensé des millions de francs or. Mais tout ça, c'est à la fin du compte, ce n'est pas pour le bien-être des peuples, c'est pour l'enrichissement de certains. Quelques personnes dans le monde qui ont des fortunes colossales et on travaille pour eux. Voilà.
C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foi. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués, ferait mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres pauvres purotins. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, et c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.
Didier, on se retrouve pour un prochain épisode.
On ira visiter la carrière souterraine qui a permis la construction du fort. Donc je te dis qu'il y en a une qui est sous le fort, c'est une carrière de pierre dure. Là, on ne va pas y aller parce que ce sont des galeries à basse, donc on aurait vite mal au dos. Mais on va aller visiter la grande carrière de pierre tendre qui a servi à faire toutes les maçonneries et toute la pierre de taille. On va s'imaginer les hommes vivant là-dedans pendant des jours et des jours.
Alors rendez-vous est pris pour ce prochain épisode et merci pour cette balade.
Merci.